compagnons de misère et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme. Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leur spectre gelé au-dessus des poubelles où remoueront leurs vers comme un effet de l'art. Ils marchent dans l'azur, tête dans les villes, et savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des îles où n'abordent jamais les âmes des bourreaux. Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice, et l'on met en prison leurs quatrains de 10 sous, comme si l'on m'était offert un édifice sous prétexte que les bourgeois sont dans les goûts.
Amis de Radio Occitanie de la Poésie, bonjour. Les Poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Nous allons continuer cette semaine notre émission sur Miguel Hernández pour saluer cet événement éditorial qui est la parution aux éditions Cap de l'Étang des poèmes d'amour en 2 tomes de Miguel Hernández. Auparavant, pour débuter, nous allons vous faire entendre un contemporain de Miguel Hernández, quelqu'un qui l'a aidé dans sa démarche poétique, lui qui disait, il s'agit bien sûr de García Lorca, il disait à Miguel Hernández, il lui disait « Les livres de poèmes, cher Miguel, cheminent très lentement ». Voilà ce que disait Federico García Lorca à son ami Miguel Hernández. Nous allons écouter un morceau chanté par Sandra Hurtado Ross, qui c'est aux éditions Trobavox, fabuleuse édition Trobavox, à qui on doit cette anthologie absolument unique sur les troubadours, mais également tous ces chansons, ces poèmes sur les séfarades, tout ce répertoire hispanique. Là, on va écouter Sandra Hurtado Ross, qui est andalouse, elle aussi, et sévillane de naissance, qui va exprimer dans ce que vous allez entendre sa passion pour la mélodie, dans cette interprétation généreuse qu'elle a des chansons d'inspiration à la fois populaire et également des textes de Federica García Lorca, qui sont des textes, vous allez l'entendre, d'une préciosité quand même poétique, mais d'un génie poétique qui est tout à fait exceptionnel. Alors on va écouter successivement, Preciosa y el aire, et puis ce sera suivi de La guitare. Alors tout ceci est extrait d'un CD que je vous invite à vous procurer, CD, disais-je, publié aux éditions Trobavox, animé par Gérard Zucchetto, le chanteur, compositeur, poète, éditeur, Gérard Zucchetto, mainteneur de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse. Donc c'est un CD qui a pour titre « Cantando Españas ». Nous l'écoutons. Thank you.
de pergamino, preciosa tocando viene, por un anfibio sendero de cristales y laureles. El silencio sin estrellas, huyendo del sonsonete, cae donde el mar bate y canta su noche llena de peces. En los picos de la sierra, los carabineros duermen guardando las blancas torres donde viven los ingleses. Y los gitanos del agua levantan por distraerse glorietas de caracola y ramas de pino verde. Su luna de pergamino, preciosa tocando viene. Al verla, se ha levantado el viento que nunca duerme. San Cristóbalón desnudo, lleno de lengua celeste, mira a la niña tocando una dulce gaita ausente. Niña, deja que levante tu vestido para verte. Abre mis dedos antiguos, la rosa azul de tu vientre. Preciosa, tira el pandero y corre sin detenerse. El viento hombrón la persigue con una espada caliente. Frunce su rumor el mar. Los olivos palidecen. Cantan las flautas de umbría y el lisogón de la nieve. ¡Preciosa, corre, preciosa! ¡Corre, que te coge el viento verde! ¡Preciosa, corre, preciosa! ¡Míralo por donde viene! Sátiro de estrellas baja con su lengua reluciente. Preciosa, llena de miedo, entra en la casa que tiene más arriba de los pinos el cónsul de los ingleses. Asustado por los gritos, tres carabineros vienen. Su negra capa ceñida y los gorros en las sienes. El inglés da a la gitana un vaso de tibia leche y una copa de ginebra que, preciosa, no se bebe. Mientras cuenta, llorando su aventura a aquella gente, en las tejas de pizarra, el viento furioso muerde.
Callarla, es imposible callarla.
Llora monótona como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada. Es imposible callarla, llora por cosas lejanas. Es imposible callarla, llora por cosas lejanas. La tarde sin mañana llora flecha sin blanco, la tarde sin mañana, y el primer pájaro muerto sobre la rama. El llanto de la guitarra, empieza el llanto de la guitarra, se rompe la copa de la madrugada, se rompe la copa de la madrugada. Guitarra, corazón malherido por cinco espadas. Oh, guitarra, corazón malherido por cinco espadas.
Oh, guitarra, corazón mal herido por cinco espadas. Merci Sandra Hurtado-Ross pour cette mise en musique magnifique des poèmes de Lorca. Et c'est la guitare, vous allez la retrouver, Empieza el llanto de la guitarra, mais c'est pas fini, vous allez la retrouver, cette guitare, sur les poèmes de Miguel Hernández. Auparavant, je voudrais faire une annonce, puisque ces poèmes d'amour de Miguel Hernández, publié au Cap de l'Étang, Cap de l'Étang, éditions Cap de l'Étang, qui sont dans le Gard, est un événement éditorial, mais décidément, ces éditeurs qui arrivent à diffuser la poésie, qui arrivent à la faire vivre, on n'en dira jamais assez de bien, et il faut dire tout le bien des éditions Caractère. Alors, les éditions Caractère, vous savez, ce sont ces éditions qui ont été créées par Bruno Durocher. Bruno Durocher, qui est décédé en 1996, qui a été l'éditeur de tous les grands noms de la poésie française de cette deuxième moitié du XXe siècle. Et c'est Nicole Gdalia, donc son épouse, qui a repris ces éditions prestigieuses et qui a maintenu ces éditions au plus haut niveau. Et elle vient avec Jean Portante et Sylvestre Glancier, tous les trois, donc Nicole Gdalia, Jean Portante, Sylvestre Glancier, viennent de faire paraître à ces fameuses éditions Caractère Anthologie de la poésie mondiale. Alors il s'agit d'un livret. Un livret en deux volumes, un livret magnifique, un travail vraiment exceptionnel d'édition dans tous les sens du terme. Il y a deux volumes sur cette poésie mondiale, les grands noms de la poésie mondiale, qui vont de la lettre A à la lettre L pour le premier volume et de la lettre M à la lettre Z pour le second volume. Alors en tout, ce coffret va vous offrir 844 pages de poésie avec une présentation succincte mais très pertinente de chaque auteur. C'est également une poésie multilingue, c'est-à-dire que vous allez trouver des versions dans l'idiome du poète du monde dont on parle dans cette anthologie. Il y a donc deux volumes et le tout vous coûtera, les deux volumes donc vous coûteront 55 euros. Alors c'est un pari audacieux qu'a réalisé là les éditions Caractère, hein, avec Nicole Dalia que nous avons invité ici à cette radio parce que elle est poète elle-même, c'est une ancienne universitaire, hein. Nous l'avons même invité, Nicole Dalia, à la Maison de l'Occitanie ici à Toulouse pour une rétrospective des œuvres de Bruno Durocher, hein, le créateur des éditions Caractère, lorsqu'ils ont sorti cette magnifique anthologie donc, de Bruno Durocher, qui est toujours disponible aux éditions Caractère. Alors, bien sûr, pour poursuivre un peu cette épopée et le mythe qui est maintenant quand même Bruno Durocher, un homme exceptionnel par sa vie, exceptionnel par sa vie puisqu'il a été interné dans les camps de concentration nazis, puis ensuite il a été fait prisonnier en Pologne, dans la Pologne communiste, et qu'il s'est battu comme un lion dans sa vie, en particulier même à Paris, hein, pour faire vivre les éditions Caractère. Quand il est arrivé, personne ne l'attendait, ça n'a pas été facile. Et il a réussi à mener sa tâche à la fois de poète, de penseur, vrai penseur, Bruno Durocher, et d'éditeur généreux, d'éditeur affûté. Tout cela dans un contexte qu'il fallait apprivoiser en partant de rien. Et donc, il fallait saluer ce grand homme. Et comment le saluer mieux qu'avec une anthologie, bien entendu, de son œuvre, ce qui a été fait, mais également en continuant cette œuvre éditoriale avec cette anthologie de la poésie mondiale. Alors, bravo donc à ces trois-là. Nicole Dalia, Jean Portante et Sylvestre Glancier pour ce travail, un travail considérable. Hein. Un travail considérable. Ils ont fait des choix qui sont judicieux et éclairants. On aura l'occasion d'en reparler. Et parce que des anthologies de poésie, il y en a pas mal disponibles actuellement. Mais celle-ci, c'est une anthologie qui n'est pas thématique, qui met en valeur des auteurs de toute pensée, de tous bords. Il y a une espèce d'éclectisme, mais qui est un éclectisme qui fait que chacun des auteurs signés, des poètes qui sont présents dans cette anthologie a déjà, je dirais, gagné sa reconnaissance internationale, et donc d'un simple, en ayant ces deux volumes, on a une espèce de défilé donc de la poésie au plus haut niveau, hein, des poètes au plus haut niveau de notre monde. Et c'est une poésie vivante qui va bien entendu au-delà des frontières, puisque bon, comme son nom l'indique, c'est une poésie d'anthologie mondiale. Et donc ça permet de se faire quand même une idée de la production poétique et littéraire de notre période à nous, hein, cette période du XXe siècle, de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Alors j'ai eu grand plaisir à retrouver, par exemple, Jean Rousselot, entre autres, Jean Laugier, qui était un ami de Bruno Durocher, hein. Raymond Queneau, Pierre-Emmanuel, Luc Bérimont, Emmanuel Clancier, dont on ne parle plus, c'est bien dommage, c'est vrai, Jean Cassou, hein, le Toulousain, Jean Cassou, Marc Alain, Jacques Ancé, il faut vraiment parler aussi de Jacques Ancé. Nous avons souvent cité l'œuvre de Jacques Ancé ici, à la fois comme traducteur, mais aussi comme poète. Michel Deguy, bien, qui nous a quitté il y a peu de temps, et puis Vénus Corrigata, qui vient d'être faite maîtresse S-jeu de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse. Voilà. Alors, il y a des poètes de tous les continents. On a écouté tout à l'heure Lorca, bien entendu. Lorca fait partie, et ô combien, de cette anthologie. On va trouver Édouard Glissant pour la Martinique, Vae Godel pour la Suisse, Ossip Mandelstam pour la Russie, Édouard Monique pour l'île Maurice, Erza Pand pour les États-Unis, Géo Norge pour la Belgique, Yanis Ritsos pour la Grèce, et puis Miloš, bien sûr, pour la Pologne, voilà, et tant d'autres. Voilà. Alors, c'est une publication qui est rare, hein, une anthologie comme ça mondiale, qui soit aussi dépouillée aussi, je veux dire, il n'y a pas de fioritures. Et dans notre période, là, qui se relève un petit peu de tout un tas de malheur, je crois que ça fait du bien de voir que dans ces événements de plus en plus bizarres, que ce soit les pandémies, les incendies, les guerres, une guerre européenne qui arrive comme ça, ça fait quand même du bien de voir que il y a des gens qui, nonobstant toutes ces barbaries qui se remettent maintenant un petit peu à reprendre du poil de la bête, hein, qui travaillent dans une époque où les gens, effectivement, deviennent de plus en plus agressifs parce qu'ils ne savent pas, en définitive, où ils vont. Ils manquent de repères, comme on dit, hein. Eh bien, là, ça en est un, la poésie. Voilà, la poésie qui va donner aux rapports humains, qui sont ces rapports disloqués que l'on voit actuellement, hein, où les gens sont tendus, où les gens ne pensent plus à l'autre, hein. On va avoir ces paroles qui constituent, quand on regarde cette anthologie, l'ensemble de ces paroles constitue la parole poétique. Et la parole poétique, c'est ce qui peut, bien entendu, être le meilleur, je dirais, le meilleur allié de tout ce qui prône la poésie, de tout ce qui prône la poésie, c'est-à-dire la poésie, qu'est-ce qu'il y a derrière la poésie? Il y a la liberté. La liberté de penser, la liberté du langage, la liberté d'aimer. Voilà. Donc, c'est un ouvrage, je dirais, de salut public, hein, d'utilité publique, cette anthologie de la poésie mondiale. Alors, vous trouverez sur notre site lespoètes.site, sans accent et sans tout attaché, lespoètes.site. Vous trouverez en page d'accueil, en faisant défiler la page d'accueil, c'est-à-dire en descendant dans la page d'accueil, vous trouverez cette présentation de l'anthologie de la poésie mondiale. Et là, vous verrez, il y a une photo de Nicole Dalia, il y a des articles du Figaro littéraire, je crois, qui vantent le mérite de cette anthologie. Mais il y a également un lien qui est une émission qui a été réalisée avec Nicole Dalia sur cette anthologie. Et je vous invite à aller voir et à cliquer sur ce lien et à écouter donc ce que dit Nicole Dalia elle-même de cette magnifique anthologie sur laquelle nous reviendrons, puisque de temps en temps, nous reviendrons avec en main cette anthologie pour lire peut-être un ou deux poèmes en préambule de chaque émission. En tout cas, autant les poèmes d'amour constituent, à mon sens, un événement éditorial, et avec en anthologie de la poésie mondiale, on est de nouveau sur un événement éditorial de la poésie. Voilà. Donc vous voyez, ce sont les éditeurs, et souvent ce sont les petits éditeurs. Il ne faut pas dire les grands aussi, hein, font ce qu'ils peuvent. Hein, les éditions Gallimard font quand même beaucoup aussi. Hein. mais les petits éditeurs, c'est ceux qui portent quand même à bout de bras cette poésie qui va peut-être, si tout va bien, comme disait Jean-Pierre Siméon, va sauver le monde. Alors revenons à Miguel Hernández, El rayo que no cesa, l'éclair sans cesse. J'ai ici l'exemplaire de cette traduction qu'avait fait Pedro Heras, ce dernier poète, jeune poète espagnol, disparu malheureusement bien prématurément. Et voilà ce qu'il avait traduit, donc l'éclair sans cesse de Hernández. Et voilà ce qu'il disait sur Hernández. Je vais le lire un petit peu. D'abord parce que il faut vraiment... Alors je vous invite bien entendu à vous reporter à l'émission de la semaine dernière que vous trouverez sur notre site lespoètes.site. Hein. Vous allez à l'émission du 13 mars 2022 et là vous avez toute la biographie, vous pourrez écouter la biographie de Miguel Hernández. Mais voici ce qu'en dit notre regretté ami Pedro Heras, entre terre et culture. Un visage de terre pétrie, d'argile recuite. On dit de Hernández, en ce début des années 30, qu'il porte sa fierté comme une pomme de terre, propre, simple, avec autour son odeur de sillon retourné, l'œil clair et ébloui. Hernández, je m'attarde sur cette physionomie. C'est ce corps qui se serre sur une brassée de muscles en torsade, écorce de chêne vert, fin, élastique, avec au sommet de son 1,60 m ou 1,70 m, le cheveu court et épais, parfois presque à ras. Le plus étonnant, c'est que son poème, cette épaisseur qu'on y goûte, porte la trace de cette poussée volontaire, pas toujours naturelle, mais tendue, extrême. La terre en lui est la prémisse. Il ne cesse de le dire, et il fait corps avec. S'il déborde son horizon, dressant la tête, et qu'il porte son regard vers les berges du Segura, rivière du Levant, l'étendue qu'il trouve lui montre ses maraîchers, leur culture à perte de vue, avec des champs, ici et là, en friche, coiffés de palmeraies, hautes colonnes poussiéreuses. Et derrière, devant, partout, l'alignement ordonné des orangerées, clairsemées de citronniers capiteux, exaltation de lumière. Avec ça, des hommes qui bêchent à la main, courbés, des femmes qui s'en viennent de leur cabas sur la tête ou contre la hanche, une terre en labour, sans rien cependant, de trop bucolique, aride et rêche, souvent, harassante parfois, à se prendre à rêver de quelque autre brûlure qui, comme la neige, ne prendrait aucune teinte, aucune couleur. Et ce qui est devant moi est en moi. Ceci est un vers de Miguel Hernández. Et ce qui est devant moi, est en moi. Étonnant alliage du levant espagnol qui sort et repousse le sol comme une plante pugnace, fière et délicate, dans son plein de lumière, à l'embouchure d'une eau rare, condition nécessaire, périodique, de ce prodige exubérant. Peut-être parce que la soif constitue le fond de cette nourriture que Hernández ne cultive pas, parce que malgré l'école où il va peu, il n'y apprend rien de tout cela, trop occupé peut-être à y acquérir le bagage en bagage que tout le monde dans ce coin reculé de l'Espagne est loin d'avoir. Sauf que ce que Hernández sait sans savoir, ce qu'il anticipe, est loin de s'apprendre dans ces grandes salles sonores où retentit l'ordre et la règle dans des voix fermes et monacales. Ni là, ni ailleurs, il faut croire. Mais on peut imaginer, et on le sait, que la poésie, vers le tournant de la vingtaine, en même temps que celui de la République de récente accession, amorce des années 30 à pénétrer Hernández comme un engrais, même si elle le peigne à la mode locale avec toute cette cohorte de petits trolls sans maille lisse, d'intentions puériles, seul lieu pour lui encore de débauche, pas l'inaudit d'apprenti, se rassure-t-on ? Une poésie, en tout cas, dont Hernández cherche, sans tarder, par intuition, par expérience, à racler le lustrage par trop moderniste, formellement dépassé, rétrograde. En s'étant encore le fossé d'avec ceux en place, à Madrid ou ailleurs, en province, en apparence, du moins, n'est pas infranchissable. Alors, le voilà qui, comme un larron, ne demande que l'occasion. Mais rien du, on le cite, « Venez, chère grande âme, du « On vous appelle, on vous attend ». Donc c'est de Verlaine à Rimbaud, hein, vous avez reconnu la parole de Verlaine, ce que disait Verlaine à Rimbaud quand il était adolescent. Comme le paysan, son contemporain Hernández est l'égal de celui dont il voit le travail et la sueur à sa place, saison après saison, en fruits jamais tout à fait mûrs ni jamais tout à fait consommés. Plus tard, dans les rues de Madrid, on le verra bien sûr faire et transbahuter sa lourde cagette d'orange en forme de remerciement pour quelques mains tendues. Voilà. Voilà, je voulais lire absolument ça de Pedro Heras au sujet de Miguel Hernández. Alors, dans les poèmes d'amour, bien entendu, ces poèmes d'amour ont été traduits et présentés par Monique Marie Iri. Iri s'écrit I-H-R-Y. Monique Marie Iri dit ceci dans une longue et merveilleuse préface, hein, qui vraiment est saisissante, je dirais, parce qu'elle a vraiment bien compris. Et il n'y a pas un mot de trop, c'est vraiment très bien. Miguel Hernández, elle dit, c'est une vie dédiée à la poésie. Voilà, c'est ce que dit aussi, bien sûr, il ne pouvait pas dire autre chose, hein, Pedro Heras. Rien ne pouvait prédire qu'un berger, hein, le berger d'Orihuela, deviendrait ce grand poète que nous connaissons aujourd'hui. Miguel Hernández, rappelons qu'il est né en 1910, qu'il est mort en 1942, est né dans une famille très modeste de 7 enfants dans le village d'Orihuela, de sa province d'Alicante, en Espagne. Donc à l'âge de 13 ans, il est scolarisé dans la classe réservée aux enfants pauvres du collège local de jésuites, Santo Domingo, mais doit arrêter très rapidement ses études pour devenir gardien du troupeau de chèvres familial, selon le désir de son père. Alors, de 1934 à 1935, il est nommé, il va à Madrid, hein, en 1934, il reprend le chemin de Madrid qu'il avait pris en 1931, et de 1934 à 1935, donc, il est nommé chef du département de la culture. Alors là, c'est intéressant quand même. Il est chargé, nous dit Monique Marie Iri, il est chargé de s'occuper du journal de la brigade ainsi que d'une mission pédagogique consistant à transporter des bibliothèques ambulantes, vous rendez compte, des disques et des films sur le territoire espagnol afin de véhiculer la culture dans des endroits isolés. Bon, ce qui nous semble aujourd'hui banal, à l'époque c'était quand même révolutionnaire. Par ailleurs, il écrit des biographies de Torero pour José María de Cosío, c'était le spécialiste taurin qui préparait un ouvrage encyclopédique sur les taureaux, vous voyez. Hein, et cette thématique des taureaux sera abordée à plusieurs reprises donc dans sa poésie, là, comme on le verra également chez Lorca. Miguel Hernández fit des rencontres qui eurent une influence décisive sur son écriture, nous dit la préfacière, notamment Rafael Alberti, Luis Cernuda, et bien sûr le poète chilien, dont j'en ai beaucoup parlé la semaine dernière, Pablo Neruda, qui était alors consul à Madrid, il était consul à Madrid depuis 1935. Alors, ce consul poète, il va prôner une poésie impure, c'est une poésie dépouillée de tout artifice. Voilà. Et l'écriture de Miguel Hernández évoluera désormais, tant sur le plan de la thématique, car il s'éloigne des préceptes de la religion catholique, que sur le plan esthétique. En 1935, il publie une pièce de théâtre, Los Hijos de la Piedra, les fils de la pierre, un drame sur le thème de la montagne et de ses travailleurs, qui relate l'injustice liée à la condition des mineurs. Vous voyez, il y a toujours un arrière-plan toujours social. Il ne s'en est jamais éloigné de cette préoccupation sociale, Miguel Hernández. Et puis, bon, va arriver la guerre civile, 1936-1939. Et là, il s'engage. Donc, comme je l'ai dit la semaine dernière, il s'engage pour la cause républicaine. Donc, il s'oppose, bien sûr, à la prise de pouvoir par le fascisme. Donc, il s'en va à Madrid en 1936. Il est enrôlé dans le 5e régiment de l'armée républicaine. En 1937, il dédie au poète Vicente Alexandre, avec qui se trouvent de grandes affinités. Le recueil « Viento del Pueblo », « Vent du peuple », et rejoint le Parti communiste. Bon, de ceci, j'en ai parlé la semaine dernière. Il se marie en 1937. C'est un poète avec Joséphine, dont il aura deux fils, Manuel Ramón. Alors, Manuel Ramón, ça, c'est le grand drame. Il va décéder rapidement. Et puis, Manuel Miguel, son deuxième fils qui naît. Manuel Ramón était né en 1937 et deux ans plus tard, donc, naît Manuel Miguel, qui naît d'ailleurs l'année de son incarcération. Il aura l'occasion de le voir une fois en prison. Alors, l'anthologie Poèmes d'amour. Dans son ensemble, nous dit la préfacière et la traductrice, la poésie de Miguel Hernández est axée sur le thème de l'amour. Voilà. Alors, amour. Amour pour la nature, la femme, la sienne en particulier, et le fils. C'est également une œuvre engagée, abordant le thème incontournable de la guerre. Alors, elle explique donc cette édition des poèmes d'amour, Monique-Marie Iri, en disant « Nous avons choisi de rassembler bon nombre de ces poèmes et de les répartir dans une anthologie déclinée en plusieurs tomes. Dans cette préface, où seront développés les grands thèmes de la poésie amoureuse de Miguel Hernández, nous serons parfois amenés à citer des textes inclus dans le tome 2. » Voilà ce qu'elle fait, son amour pour la nature, c'est une des premières parties. Donc il y aura une partie sur l'amour de la nature, une deuxième partie sur l'amour, et dans les divers tomes de l'anthologie, les thèmes de la vie, de l'amour et de la mort sont intimement liés. Le thème existentiel de la vie au sens large est notamment illustré dans le poème « J'ai trois blessures », donc situé au début du tome 1, je vais essayer peut-être de le lire. Et puis, la deuxième, encore une partie, c'est la découverte de l'amour. Alors, on sait que Miguel Hernández a beaucoup lu, il est autodidacte, et son œuvre est soumise à une évolution, comme l'est celle de tous les auteurs. En général, il est tout d'abord bercé de mysticisme, il subit l'influence de Luis de Góngora, et dans une seconde étape, il bénéficie de l'influence de poètes romantiques du XIXe, tels Rubén Darío ou Juan Ramón Jiménez, entre autres. D'où ses recours à la mythologie et à l'érotisme, avec la sensualité du jeune poète commençant à expérimenter certaines sensations. Voilà. Après, il y aura l'expérience amoureuse, l'amour ingénu, un amour ingrat de jeunesse, la femme du sonnet qui commence par ce vers « Je me suis entouré, enamouré, ce bien éperdument ». Ça, c'est dans le tome 1, il renvoie à une expérience amoureuse adolescente. Il va parler de ce poème d'adolescence. Bon, mais je vais vous faire entendre tout ça. Et puis, bien sûr, c'est son amour pour sa femme, l'amour pour Josefina Mancera. Voilà. Et il y aura encore ses autres relations amoureuses. Et puis, il verra que le grand amour de sa vie, c'est Josefina. Voilà. Et puis, la descendance. Quand en 1939 va paraître Cancionero y Romancero de Ausencias, c'est un ouvrage composé de poèmes très intimistes. C'est le journal d'une âme contrainte à la solitude, une âme contrainte avec un titre pareil, de Ausencias, et à la souffrance, à la peine. Et certains textes sont très courts, avec un style très épuré, comme Mon cher enfant mort, qui contraste avec la stricte norme métrique des sommets de El Rayo que no cesa, qu'avait traduit Pedro Heras. Voilà. Et puis il y aura la correspondance. Mais donc la frustration, l'érotisme aussi, c'est L'érotisme et la pureté se côtoient également dans la nature environnante abondamment décrite dans El hombre y su poesía. Le professeur Juan Caño Belliesta évoque l'érotisme très présent dans le recueil Perito en Lunas. Et c'est un recueil qui a été publié en 1933 par Miguel Hernández. Bon, vu l'heure qui passe, et puis on finira sur l'amour et la mort, hein, tout cela. Mais ce que je voudrais, l'amour, la mort, puis alors l'amour pour son enfant, bien sûr, l'engagement personnel et la cause du peuple, tout ça va se retrouver. Et bien sûr, sur quoi tout ceci débouche? Ça débouche sur la liberté. La liberté. Voilà. Et nous allons écouter donc ces poèmes dans le temps qui nous reste. Voilà. Valse des amoureux unis pour toujours. Ils ne sortirent jamais du verger de l'étreinte. Et devant le rosier rouge des baisers, ils se mirent à tourner. Des ourgans voulurent avec animosité les séparer, tout comme les haches tranchantes et la foudre rigide. Ils firent grossir la terre avec leurs pâles mains. Ils expérimentèrent des précipices propulsés par le vent dans des bouches bannies. Ils subirent des naufrages, chaque fois plus infernaux, dans leur corps, dans leurs bras. Poursuivis, plongés dans un grand désespoir, de souvenirs et de lune, de novembre et de mars, ils se virent tous deux dispersés comme une poussière légère. Ils se virent tous deux dispersés, mais restèrent à jamais enlacés. Ballade de jeunesse. Triomphante, elle vint à moi. Je la vis et la surprise, telle une agréable liqueur, emporta mon âme. « Qui es-tu ? » lui dis-je. « Une divine princesse ? Un beau fantôme ?» Sa bouche de fraise s'ouvrit doucement et murmura. « Je suis la blanche fée qui baigne le chemin, fatale de la vie d'une pluie de lumière qui allume dans les branches un feu divin qui cache à l'être humain son pauvre destin et adoucit la croix de son existence. Je suis la rose rouge qui, luxuriante, s'ouvre au chaleureux baiser du soleil d'avril. Je suis de la vie l'aurore élégante, naissant entre les nuages d'opale et de grenat, naissant entre mille et une grosses et fine perle. Je suis un rêve candide, je suis une fontaine vive qui, fugitive, s'écoule à travers le champ fertile. Je suis la douce abeille bourdonnante et active qui butine le nectar de toutes les fleurs. Je suis un nuage d'or qui passe fugacement. Je suis un grand brasier qui, immense, s'enflamme, faisant hurler dans les veines le sang, projetant dans les yeux des reflets de flamme, couvrant les seins d'écailles incandescentes, faisant craquer les fibres joyeusement. Mon souffle offre au vent plus de notes que l'oiseau. Ma vie est tissée d'illusions. Mon cœur ne connaît pas la cruelle désillusion, la tristesse obscure ne m'atteint pas. Dans mon âme, la peine ne trouve pas refuge. Je simule des palais plus hauts que les monts, j'escalade les pentes de tulle léger, accrochées aux roues de phaétons ailés. Je poursuis des chimères, je scrute des horizons de neige, de rose, de nacre, d'azur. Je suis une aimable gondole, arrivant baignée de foi et d'optimisme au fond de la mer. Je suis une coupe pleine d'ardentes boissons. Je suis du grand livre de la vie, la page d'or, pouvant enseigner. Sur mon chemin, je ne rencontre pas d'obstacles perfides, ni de ronces scélérates, ni d'amertume, ni de gel. Mais je le trouve tapissé de pétales rouges, d'œillets fiers, tissés de soie, de lumière, de joie, de rose, de miel. J'inonde les jours de lumière resplendissante, les tristes crépuscules de couleurs gaies, les espaces vides d'une mer d'harmonie et d'une mer de fragrance, les nuits sombres d'enchantement, de rire, de baisers et d'amour. Je suis une vierge chaste que tous adorent, que tous attendent avec une vive impatience. Je suis un délice absolu que tous dévorent, l'amante que tous désirent et pleurent lorsqu'elle fuit vers d'autres bras. Je suis la jeunesse. En l'entendant, je vis s'ouvrir devant moi un monde souriant. Je trouvais à mes pieds mille joies. Mais quand je pensais l'avoir maîtrisée, tel un rêve, elle s'éloignait de moi comme un souffle de brise légère. Avec une profonde tristesse, parfois je me dis, viendra-t-elle encore à moi, la fée bénie qui s'est enfuie? Ma chevelure grisonnante, mon front ridé, et le feu de mon âme qui commence déjà à geler. Avec des mots silencieux, répondent « Non, non !» Mes yeux sans tes yeux sont inexistants, car ce sont deux fourmiliers solitaires, de rebelles fagots de fil de fer, sont mes mains sans tes mains, assurément. Je n'ai de lèvres sans tes flamboyants qui me remplissent de clochers solaires, sans toi mes pensées ne sont que calvaires, sarclant des chardons et fenouilles fanants. Je ne peux entendre que ton seul chant. Ne sais sans ton étoile où je me rends, et ma voix sans toi devient féminine. Je poursuis ton arôme à ton passage, la trace effacée de ton image qui en toi commence, en moi se termine. Je sais qu'un triste esprit est importun. Quand on va, vient, dans sa joie éblouie, comme la mère de la baie au midi se rend vers un lieu sauvage, inhumain. Ce que j'ai souffert, tout cela n'est rien. Quant à tout ce qui me sera permis d'endurer, la rigueur de l'agonie, du couteau à l'épée sur mon chemin, je me tairai, partirai si je peux, avec cette persistante douleur où tu ne pourras mouir ni me voir. Je m'en vais, je m'en vais, mais je demeure. Mais seul je m'en vais vers mon isoloir. Adieu, amour, jusqu'à la mort. Adieu. Le plus vieux poisson de la rivière avait tant accumulé de sagesse qu'il vivait brillant et sombre, et l'eau lui souriait. Il en devint très sombre. L'eau ne le distrayait en rien. Si bien qu'après avoir médité, il prit le chemin de la mer, c'est-à-dire celui de la mort. Tu riais, toi, près de la rivière, enfant solaire. Et ce jour-là, le poisson le plus vieux de la rivière a quitté son air sombre et l'eau te souriait. Tierra, la despedida. Tierra, la despedida. Siempre es una agonía. Ayer nos despedimos. Ayer agonizamos. Tierra, el miedo. Hoy morimos. Terre, le moment de le revoir est toujours une agonie. Hier, nous nous quittâmes. Hier, nous agonisâmes. La terre nous sépare. Aujourd'hui, nous mourrons. À mes grandes Joséphine adorada, à ma grande Joséphine adorée. Tes lettres sont un vin qui me transporte et sont l'unique nourriture pour mon cœur. Depuis que je suis absent, je ne sais que rêver de ton corps comme la mer. Je suis amer, tout comme la mer. Je me repais de tes lettres, réfugié dans un coin, et entre la bergerie et l'herbe, je leur offre mon cœur. Même quand mon corps amant sera sous la terre, écris-moi, ma colombe, je te répondrai. Quand viendra me manquer le sang mêlé au nectar de l'œillet, sur ma tombe, mon amour, écris-moi. Tu m'as lancé un citron tellement amer, d'une main si chaude et si pure, que n'en a pas altéré la texture, et dont je goûtais le fiel cependant. Sous le jaune projectile, mon sang, d'une torpeur douce à une brûlure avide et passée, sentant la morsure de la pointe d'un sein dur s'allongeant. Mais en remarquant que tu t'étais mise à sourire après cet âcre exercice étranger à ma vorace malice, mon sang s'est endormi sous ma chemise. Et ton sein d'or poreux est devenu une peine flamboyante et pointue. C'était Poème d'amour. Les textes que j'ai lus, les poèmes que j'ai lus sont du tome 1. de Miguel Hernández, dont nous continuerons avec le tome 2 lors d'une prochaine émission. Donc je vous rappelle ces poèmes d'amour en deux tomes, donc deux volumes, aux éditions Cap de l'Étang. Chaque tome vous coûtera 19 euros. Ce sont des éditions bilingues, hein, espagnol et français. Donc, l'événement éditorial, Miguel Hernández, poème d'amour. Ainsi s'achève notre émission. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine. Adiós.
Ce sont de drôles de types qui vivent de leurs plumes ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leur souffle dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus, leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés, quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme. Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leur spectre gelé au-dessus des poubelles où remourront leurs vers comme un effet de l'art. Ils marchent dans l'azur, la tête dans les villes, et savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des îles, où n'abordent jamais les âmes des bourreaux.